Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour tout le monde. Il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi du commentaire, l'histoire d'aujourd'hui et la revue de presse. Et après, nous vous présentons le rappel de titres de l'actualité.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Chers auditeurs, nous vous présentons maintenant le journal. Nous commençons avec le titre. Le premier ministre Ong Roa visitera l'Indonésie. La Chambre du commerce et de l'industrie indonésienne va développer la technologie numérique pour les micro, petites et moyennes entreprises. L'Australie envisa pour visiter l'Indonésie. Le gouvernement développera le tourisme de Borobudur. L'ambassadeur indonésien invite des gens de la Biélorussie à l'Indonésie. MUI étudie une coopération de l'éducation des cadres des ulémas avec le Qatar. Voici le journal complet. Le premier ministre de la Hongrie, Viktor Orban, se rendra en Indonésie du 31 janvier au 2 février 2016. Lors de la visite, Viktor apportera 5 ministres et 47 hommes d'affaires pour renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine économique. C'est ce qu'a expliqué le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, Armanata Kristiawanasir, lors d'une conférence de presse au ministère des Affaires étrangères à Jakarta jeudi. Selon le projet, le premier ministre Ong Roa visitera l'Indonésie de 31 janvier au 2 février. Le but principal de sa visite est d'accroître la coopération économique. Il viendra avec 5 ministres, à savoir le ministre de l'Agriculture, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Économie, le ministre du Développement. Et il mènera également 47 hommes d'affaires, s'occupe dans le domaine des finances, de l'énergie, de l'hospitalité, de la fabrication. En outre, Armanata Kristiawanasir a dit qu'en plus d'une rencontre bilatérale avec le président indonésien Jokowi, le premier ministre hongrois Viktor Orban participera à un forum d'affaires qui se tiendra par le PDG des entreprises de l'Indonésie. Selon lui, la visite du premier ministre Viktor Orban à l'Indonésie a la valeur stratégique en raison de la position de la Hongrie comme partie de l'Union européenne et ce pays est situé en Europe centrale. En outre, la Hongrie a une excellence en industrie automobile et l'Indonésie est l'un des producteurs de pièces de récence. Armanata Kristiawanasir espère que la visite du premier ministre hongrois à l'Indonésie, il y aura la signature de 2 protocoles d'entente dans le domaine de la pêche et des collèges. La Hongrie est le 7e partenaire commercial de l'Indonésie dans la région de l'Europe centrale et de l'Est, avec la valeur commerciale entre les deux pays en 2014 sont élevées à 149 millions de dollars américains et la valeur de l'investissement de 500 000 dollars américains. La Chambre du commerce et de l'industrie d'Indonésie, KADIN, en collaboration avec l'Association des comptables indonésiennes, IAI, et la Banque d'Indonésie, ont l'intention de lancer des normes comptables pour l'entité des micro, petites et moyennes entreprises sous forme de l'application. Le vice-président de Kadin d'Indonésie dans le domaine des micro, petites et moyennes, la coopération et des industries créatives, Sandiaga Uno, a dit jeudi à Jakarta. Via cette technologie, les entités de PME avaient une norme comptable qui peut être accessible par les régulateurs et les entreprises.
Pada akhir Januari kemarin,
à la fin de janvier, IAI a envoyé une lettre à la Chambre du commerce et de l'industrie qu'il y aura une percée parce qu'il y a beaucoup d'effets. Il n'est pas seulement de ses états financiers, mais aussi à l'égard de contribuables de 57 millions de PME. Il n'y a pas encore beaucoup de PME qui se sont inscrits en tant que contribuables. Nous allons encourager sous forme d'applications et de technologies. Donc, dans l'avenir, l'entité de micro, petite et moyenne ont une forme comptable facile. Il est très simple et basé sur la technologie. Selon Sandiaga Uno, cette application est encore en préparation. À l'avenir, la Chambre du commerce indonésienne va socialiser cette application via 44 chambres du commerce indonésiennes au niveau provincial. Selon le projet, l'application sera lancée en février et il existera dans une plateforme qui peut être téléchargée via l'iOS et Google Play. L'Australie est incluse finalement dans un pays bénéficiaire de l'exemption de visa vers l'Indonésie, avec 80 autres pays qui seront approuvés dans un proche avenir. Le député du développement et du marketing étranger du ministère du Tourisme, Ig Depitana, dans un séminaire sur les perspectives du tourisme de l'Indonésie 2016 à Nusa Dua Badung, Bali, a déclaré vendredi qu'il y avait maintenant 90 pays sans visa et seront signés à nouveau 80 nouveaux pays, y compris l'Australie, la semaine prochaine. Avec cet ajout, un total de 170 pays obtiennent l'exemption de visa, qui pourrait augmenter le nombre de touristes étrangers visitant l'Indonésie. Le gouvernement de la République d'Indonésie, Joko Widodo, espère que le projet de développement de la destination touristique de Borobudur peut augmenter le nombre d'arrivées de touristes étrangers en Indonésie. C'est ce qu'a affirmé Jokowi dans le complexe de temple Borobudur Magelang vendredi après-midi. Ce projet de développement pourrait augmenter le nombre d'arrivées de touristes étrangers en 2019 d'être 20 millions de visiteurs, soit deux fois de celle en 2015. Le président a déclaré que le nombre de visites des touristes étrangers à Borobudur en 2014 a atteint 250 000 personnes, tandis que les visiteurs nationaux ont atteint 2,2 millions de personnes. Selon lui, Borobudur est un chef d'œuvre de la culture mondiale qui doit continuer à être préservé et deviendra le moteur économique de la communauté dans la région environnante. Selon le président, le marché potentiel est encore très ouvert, en particulier en provenance de la Malaisie, de Taïwan, de Singapour, du Japon, de l'Amérique, de l'Angleterre, de Hong Kong, des Pays-Bas, de l'Allemagne, de Brunei et aussi de la Chine. Actuellement, le gouvernement indonésien essaye à développer des régions touristiques en Indonésie, telles que Borobudur, Tanjung Lesung, des îles Mille, Bromo, Mandalika, l'île Komodo, Wakatobi et Morotai. L'ambassadeur indonésien en Russie et en Biélorussie, Jauhari Oratmangun, a invité les citoyens de Biélorussie à visiter l'Indonésie et à profiter de la beauté naturelle et l'hospitalité des habitants de l'Indonésie. L'invitation a été transmise par l'ambassadeur de l'Indonésie au cours d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de la République de Bélarus, Vladimir Makey, à Minsk. C'était des informations de l'ambassade d'Indonésie à Moscou dans une soirée d'adieu à propos de la fin de la tasse de Jauhari Oratmangun. Comme cité par Antara, pendant la réunion de 30 minutes, les deux fonctionnaires d'État ont discuté diverses questions de coopération entre l'ambassadeur de l'Indonésie et de la Biélorussie. Selon l'ambassadeur Jauhari Oratmangun, depuis la réalisation des relations diplomatiques entre les deux pays, il y a 21 documents des accords bilatéraux qui ont été signés et sont devenus la base légale de la coopération judiciaire entre l'Indonésie et le Bélarus. L'une des réalisations importantes dans la coopération bilatérale, a déclaré l'ambassadeur Jauhari Oratmangun, est une exemption de visa de court séjour pour les citoyens de Bélarus qui visitent l'Indonésie pour le tourisme. Le Conseil indonésien des ulémas, MOI, et le ministère des Abou et des Affaires islamiques de Qatar ont étudié à établir la coopération dans les activités de l'éducation des cadres des ulémas en Indonésie. Il est l'un des accords conclus dans la visite de la délégation de MOI au ministre du ministère des Abou et des Affaires islamiques de Qatar, Gaid bin Mubarak Al-Kuari. C'est ce qu'a affirmé le conseiller Boy Darmawan qui a accompagné MOI à Antara Londres samedi. Comme rapporté par Antara, un conseiller d'Indonésie au Qatar, Boy Darmawan, a déclaré samedi que le président de MOI, Ma'ruf Amin, a dit que l'éducation des cadres des ulémas d'Indonésie a réussi à éduquer des milliers de jeunes ulémas pour être envoyés dans de différentes régions, y compris aux villages de l'arrière-pays. Pendant ce temps, le ministre Gaid bin Mubarak Al-Kuari a affirmé que la coopération étudiée entre les deux parties était entre autres le don des bourses pour les étudiants musulmans indonésiens et l'organisation de l'éducation spéciale pour des futurs propagateurs de l'islam d'origine d'Indonésie à l'université Hamad bin Khalifa Doha. Selon l'ambassadeur d'Indonésie au Qatar, Dedi Saiful Hadi, la visite est l'un des efforts diplomatiques multipistes visant à soutenir les efforts du gouvernement indonésien pour jouer le rôle dans la conciliation de conflits au Moyen-Orient, en particulier le conflit de l'Arabie Saoudite avec l'Iran. Chers auditeurs, c'était le journal du jour.
Divers événements importants qui se sont passés pendant une semaine ont été écrits par les quotidiens en paro à Jakarta dans la revue de presse. Nous commençons avec le quotidien Média Indonesia qui a écrit dans son éditorial jeudi le 28 janvier sur le traître d'État au réseau de drogue. L'agent correctionnel impliqué dans le trafic de drogue est véritable traître d'État. Par conséquent, la peine plus lourde devrait être infligée pour eux. La dernière preuve est la révélation du blanchiment d'argent de la drogue ayant pour valeur de 17 milliards roupias. Le coupable est un ancien prisonnier de prison Nusa Kambangan à Cilacap avec des associés d'affaires de trafiquants de drogue qui est emprisonné encore. Ce réseau de drogue n'est pas seulement dans une prison, mais aux autres prisons. Le trafic de drogue dur depuis l'an 2010 a renforcé le soupçon que l'application de la zone correctionnelle est encore forte. Le quotidien Média Indonésia a écrit que les efforts de l'Agence nationale des stupéfiants de nettoyer les prisons du syndicat de trafiquants de drogue devraient être soutenus, en particulier par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Par conséquent, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme devrait donner des sanctions strictes contre l'agent correctionnel qui est prouvé d'impliquer au trafic de drogue. En outre, selon Média Indonésia, ils doivent également être condamnés comme des concessionnaires. Pendant ce temps, le quotidien Kompas, dans son éditorial, a écrit « Tester l'existence de l'État ». La mesure du membre du Parlement de la faction du Parti Golkar, Setia Novanto, de ne pas répondre au troisième appel du procureur général, teste l'existence de l'État. parce que le procureur enquête actuellement le soupçon de l'existence d'infractions pénales dans le cadre de demander les obligations qui impliquent Setia Novanto, un homme d'affaires de pétrole Mohamed Riza Khalid et le président directeur de PT Freeport Indonesia, Maruf Shamsuddin. Novanto a démissionné en tant que président du Parlement à cause de ce cas. Dans une lettre envoyée par son personnel au jeune procureur général pour les crimes spéciaux, Armin Shah, Setia Novanto a demandé de reporter l'examen de 2 semaines pour des raisons de santé. Le quotidien Compass est d'accord avec l'affirmation de l'ancien président du Conseil central de Muhammadiyah, Ahmad Shafi'i, qui estime que l'étape de l'ancien président du Parlement, Setia Novanto, est une forme d'arrogance politique qui n'est pas éthique. Selon Compass, le procureur général doit également démontrer son sérieux d'appeler Riza Khalid. Nous finissons la roue de presse avec le quotidien Koran Tempo qui a écrit « KPK est en jeu ». La commission d'éradication de la corruption ou KPK est enfin réellement en jeu. Jusqu'à présent, seul KPK en tant qu'institution qui est approuvée par les gens qui est sérieux au sujet de lutte contre la corruption. Ce qui rend la KPK est en jeu, selon Koran Tempo, est quand, il y a quelques jours, le Parlement a inséré officiellement la révision de la loi numéro 2002 sur la KPK au programme national de la législation en 2016. Il a dit qu'il y avait 4 choses qui sont prévues pour être révisées, à savoir donner l'autorité qui délivre le mandat de la clôture de l'enquête au SP3, la formation du conseil d'administration, la révision de l'autorité de l'écoute électronique et la nomination d'un enquêteur indépendant. Le Parlement a fait valoir que la révision est faite à renforcer la commission. Selon ce quotidien, parmi ces 4 points, seulement la nomination d'un enquêteur indépendant qui a l'influence positive. 3 autres points affaibliront la commission anticorruption. Selon Koran Tempo, le Parlement doit prêter attention à la volonté des gens à ne pas faire la révision, ce qui est devenu la force de la commission. Maintenant, le public espère seulement au président Joko Widodo. Le gouvernement doit résister à l'affaiblissement de la commission, il n'y a pas d'autre choix. Si le gouvernement est engagé à lutter contre la corruption, si le gouvernement permet l'action du Parlement, Joko Widodo se sera souvenu mauvaise parce que l'ancien président a réussi à faire de la commission reste forte dans le milieu de divers problèmes. Serge Tor, c'était la revue de presse de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ses amis, nous vous raconterons encore dans les événements historiques importants de l'édition 30 janvier, entre autres la mort de Mohandas Karamchand Gandhi ou Mahatma Gandhi au 30 janvier 1948. Mohandas Karamchand Gandhi, né à Porbandar, Gujarat, le 2 octobre 1869, mort à Delhi le 30 janvier 1948, est un dirigeant politique important, guide spirituel de l'Inde et du mouvement pour l'indépendance de ce pays. Il est communément connu et appelé en Inde et dans le monde comme Mahatma Gandhi, du sanskrit Mahatma Grand Homme. Mahatma étant un titre qu'il refusait toute sa vie d'associer à sa personne, voire simplement Gandhi, Gandhiji ou Bapu, père dans plusieurs de l'Inde. Il a été un pionnier et un théoricien du satyagraha, de la résistance de l'oppression à l'aide de la désobéissance civile en masse. Le tout fondé sur l'ahimsa, totale non-violence, qui a contribué à conduire l'Inde à l'indépendance. Gandhi a inspiré de nombreux mouvements de libération et de droits civiques autour du monde et de nombreuses autres personnalités comme Albert Schweitzer, Martin Luther King, Nelson Mandela, Steve Biko, le Dalai Lama et Aung San Suu Kyi. Ces critiques importantes envers la modernité occidentale, les formes d'autorité et d'oppression, lui valurent aussi la réputation de critique du développement dont les idées ont influencé beaucoup de penseurs politiques. On continue, le Edward Brunsilt était un capitaine de la Royal Navy et considéré comme co-découvreur de l'Antarctique au 30 janvier 1820. Edward Bransfield est né à Ballinacura dans le comte de Cork en Irlande, sans doute en 1785. Peu de choses sont connues de son enfance et de son adolescence en 1803. À tout juste 18 ans, il est enrôlé de force dans la Royal Navy, principale méthode de recrutement à cette époque dans la marine britannique. Il commence comme matelot sur un vaisseau de ligne de la première catégorie, 110 canons. Le fil de Paris est classé matelot breveté en 1805 et il est affecté en 1806. Un vaisseau de ligne de la première catégorie, Rolla Sovereign comme matelot, puis second maître, puis aspirant en 1808, clerc en 1809 et aspire de nouveau en 1811-1812, il atteint le grade de second maître la même année. Il passe navigateur sur le Goldfields, un brick slope de la classe Cherokee avec 10 canons et commandé par Sir William Cornwallis. Entre 1814 et 1806, il est affecté comme navigateur sur plusieurs navires de 5e catégorie, puis sur le Severn, la 4e catégorie avec 50 canons, et le 21 février 1800, au bord duquel il a participé au bombardement de l'Arzer. En septembre 1817, il est nommé navigateur sur la Dombras, qui est commandé par le capitaine W. H. Sireff. C'est au cours de cette affectation qu'il a été intégré à la nouvelle escadre de Pacifique de Royal Navy au large de Valparaiso au Chili. Le Chili se battait alors pour son indépendance contre l'Espagne, mais Valparaiso avait été négligé pendant la période coloniale et était endroit ennuyeux et peu hospitalier. C'est cependant cette affection qui va permettre à Bransfield de découvrir l'Antarctique. Après un cours d'état assez peu vanté, voyager dans l'océan Antarctique, Bransfield et Smith atteignent le Shetland du Sud. Ils aperçoivent l'île Livingston le 16 janvier 1820. Le 28 janvier, Bransfield débarque sur l'île du roi George et en prend officiellement possession au nom du roi George III. Le navigateur prend la direction du sud-ouest, découvrant l'île de la Déception mais sans l'explorer. Ni en prendre possession à l'île Tower. Virant au sud, il traverse ce qui est maintenant connu sous le nom de Détroit Bransfield, ainsi nommé par James Weddell en 1522. Et le 30 janvier aperçoit des montagnes, ce qu'il nommait la péninsule de la Trinité, correspondant à l'extrémité de l'actuelle péninsule antarctique, le point le plus septentrional du continent antarctique. Ainsi a été découverte l'Antarctique, a écrit l'écrivain britannique Roland Hunford. Ses amis, c'était notre rubrique aujourd'hui dans l'histoire de l'édition 30 janvier. À demain.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, on va écouter maintenant la mise au point et en pour titre, la conférence internationale sur la planification familiale vise à améliorer le programme de population. Le président Jokowi a ouvert la conférence internationale sur la planification familiale ICFP 2016 à Nusa Dua Bali Convention Center lundi. La quatrième conférence d'ICFP a pour thème « L'engagement global, l'action locale » était initialement prévue en novembre 2015. mais a été reporté en raison de la fermeture de l'aéroport de Ngurah Rai, en raison d'une activité accrue de Mont Rinjani. Plus de 4000 participants provenant de 114 pays ont assisté à la conférence qui a eu lieu de 25 au 28 janvier 2016. La conférence était une collaboration entre le Conseil national de coordination de planification familiale, l'Institut Bill et Melinda Gates pour la population et la santé reproductive, aussi bien le Centre John Hopkins pour le programme de communication. Dans son discours, le président Jokowi a rappelé que la génération a la bonne qualité, avec un caractère noble, peut être née seulement par les mères en bonne santé, les enfants en bonne santé, et elle vient d'une famille saine et prospère. Par conséquent, la planification de la famille est très importante. Selon le président Jokowi, la planification familiale est devenue l'investissement stratégique pour assurer la santé des futures générations, la réalisation des objectifs de développement durable et de parvenir à la sécurité mondiale et la prospérité du monde. Auparavant, la conférence a été prévue pour être tenue tous les deux ans. Elle a eu lieu à Kampala, en Ouganda, en 2009, à Dakar, au Sénégal, en 2011 et à Addis Abeba, en Éthiopie, en 2013. La ministre indonésienne de la coordination du développement humain et de la culture, Puan Maharani, a déclaré que cette conférence était l'occasion de faire l'engagement à la planification familiale, d'échanger des informations, d'apprendre et d'améliorer les connaissances sur le développement de la technologie contraceptive et divers aspects de programmes de planification familiale. Dans le même temps, il a montré au monde que l'Indonésie a engagé à l'avancement des programmes de planification familiale à l'échelle mondiale. La Conférence internationale sur la planification familiale, IPCF 2016, a également donné le prix à plusieurs philanthropes internationaux pour leur dévouement dans le domaine de la planification familiale. Ils sont entre autres Patricia Sutanto, le PDG de la société qui aide à combattre la tuberculose et le paludisme, Christopher Horn de l'Angleterre, pour son soutien dans l'amélioration de la nutrition infantile et la santé maternelle, Faisal et Arif Nafi du Pakistan, dont son entreprise a donné des fonds de responsabilité sociale des entreprises au service de la communauté, ainsi que Dato' Sri Tahir, un banquier philanthrope qui soutient l'éducation et la santé des enfants. Cependant, le président du développement mondial de la Fondation Bill et Melinda Gates, Christopher Elias, a exprimé le fort engagement à fournir l'aide de 300 millions de dollars américains. Cette aide est utilisée pour aider à prévenir les femmes et les filles de la mort en raison de la grossesse ou accouchement au très jeune âge à travers la fourniture de contraceptifs. L'ouverture de cette conférence a été assistée par, entre autres, l'ancien président indonésien B.J. Habibie, le directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population, Babatunde Osotimetin, qui a représenté le secrétaire général de l'ONU, et la ministre de la Santé, Nila Muluk, la ministre de l'autonomisation des femmes et de la protection des enfants, Yohana Yembise, le secrétaire du cabinet Pramono Anung, le chef de l'Agence de coordination de planning familial national, Surya Chanda Surapati, les ambassadeurs et les ministres des pays voisins, le gouverneur de Bali, les représentants des bailleurs de fonds et d'autres organisations internationales des Nations Unies. Chers auditeurs, c'était la mise au point.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonjour chers auditeurs, il est un plaisir de vous raconter à nouveau. Dans le programme du magazine culturel, un programme quotidien de gastronomie, tourisme, arts et cultures de diverses régions à travers l'Indonésie. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la côte Jerman dans la province de Bali. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 900-200 kHz ou en streaming sur www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application de RRI Play. Bonne écoute. Bali est célèbre pour de beaux paysages, en particulier les plages. Parmi les célèbres places de Bali, il y a une nouvelle place. Uniquement, le nom de la place est comme le nom d'un pays en Europe, à savoir la place d'Allemagne. Cette place est située précisément à Wanasegara, Tuban, Kutasut, et son emplacement est également non loin de l'aéroport Ngurah Rai. Il ne prend environ 10 minutes. Le nom Côte Allemande est le nom donné parce que Bali a une histoire spéciale avec les Allemands. Dans le temps ancien, la place d'Allemagne et la porte de Kuta, où les commerçants de l'extérieur de Bali ancraient et apportaient des marchandises à traiter à ce moment. Dans l'histoire, en 1827, la porte de Kuta est la porte la plus importante dans le sud de Bali. Parce qu'exposée à l'eau de mer à l'abrasion, au fil du temps, le port célèbre de Kuta était partout et remplaçait son nom à la côte allemande. Ceci est parce que le logement, après la disparition du port, dans cette place a été habité par des Allemands. Au fil du temps, le boîtier sur la côte a été submergé et disparu également exposé à l'abrasion. Ce qui restait était les bateaux des pêcheurs. Indépendamment de l'origine de l'histoire, la beauté de la place allemande ne sont pas inférieures aux autres places de Bali. Le sable sur la place est très lisse et confortable. Ce confort vous pouvez sentir quand vous marchez pied sur une place. En outre, la côte allemande dispose également d'un contour incliné et large. Sur cette place, vous pouvez voir beaucoup de bateaux de pêche de différentes couleurs et tailles sont soigneusement garées sur le bord de mer. Pour ceux d'entre vous qui ont un passe-temps de la photographie, vous pouvez faire des images d'objets d'intérêt. Vous pouvez également profiter de la navigation de plaisance et bleu marine. Ce qui est unique à part de la côte allemande, vous pouvez voir les avions atterrir au décoller de Ngurah Rai sur la côte gauche. Ici, vous pouvez aussi flâner, bronzer ou jouer au sable autan. Pour Pour visiter la côte d'Allemagne n'est pas difficile parce que la distance est à seulement 10 minutes de l'aéroport Murachreie. Si vous louez une voiture ou un véhicule à moteur, tellement hors de l'air du stationnement de l'aéroport de Murachreie, vous prenez la route vers le nord et puis il y a la jonction en T, tournez à droite. Après avoir trouvé l'intersection Wanasegara, vous tournez à gauche jusqu'à trouver la Forsette, où il y a l'existence de la statue de Holiday Inn Resort. Suivez-vous la route jusqu'à ce que vous voyez les rives. Une fois que vous garez la voiture, vous pouvez vous promener sur les plages. Une fois que vous êtes fatigué de la marche et en appréciant le paysage autour de la côte, bien sûr, vous pouvez profiter de la culinaire qui entoure la zone. C'est solitaire lorsque vous êtes en vacances à Bali, en particulier Kuta, un peu de jouir des places de Kuta, se détendrez-vous pendant un moment sur la côte allemande. Ces amis, c'était notre Persona Indonesia, le magazine culturel La Voix d'Indonésie, diffusé à Jakarta. À demain.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers frères et amis, voici le magazine de Warna-Warni et les couleurs indonésiennes pour l'édition de samedi. Pour ce soir, on vous présente à propos de jeux éducatifs de Croix de Rousse de l'Indonésie. Bon, chers amis, n'inquiétez pas, écoutez toujours notre émission sur www.voi.co.id. ou à notre fréquence 9525 kHz. Chers amis, l'Indonésie est une des zones sujettes de catastrophes. Afin de l'éducation sur la préparation aux catastrophes à un âge précoce est très important. Par conséquent, la Croix-Rouge indonésienne ou PMI, en collaboration avec la Croix-Rouge américaine, l'UNESCO, Global Disaster Preparedness Center, ont lancé des applications de jeux éducatifs sur la préparation aux catastrophes que Saifa et Len Ulson. Cette application est une très bonne innovation pour attirer les gens à apprendre la préparation aux catastrophes d'une façon très agréable. Jouer tout en apprenant à se sauver de la catastrophe est au cœur de ce jeu. Chers amis, l'application de jeu de Saifa, le conquérant des inondations, est une aventure dans le même temps étudiant la leçon très intéressante face à des inondations, allant de la réduction du risque d'inondation, d'éviter un choc électrique, jusqu'à la menace des animaux sauvages. Toutes ces connaissances améliorent la capacité de se sauver et d'autres camps inondés. Ces jeux sont disponibles aux 140 pays en langue anglaise, indonésienne, français et tagalog. Cependant, les jeux terrestres constituent le défi pour les utilisateurs de remplir la mission qui doit être faite afin de se démarquer contre séismes et tsunamis. Ces jeux sont conçus de telle sorte que les utilisateurs peuvent appliquer les connaissances acquises à partir de la maison ou de la famille. La catastrophe du séisme et du tsunami est ce de tout à coup. Il est donc très nécessaire à bien préparer. Ces deux applications de jeu ont été faites chaque année par le développeur de la Thaïlande. Saifa signifie l'éclat dans la langue thaï. Le game Saifa a été fait après la catastrophe des inondations en Thaïlande en août 2011, tandis que Len ou Sol a été créé après le tsunami qui a frappé la province d'Aceh en 2004 et Sendai au Japon en même année. Le nom Len ou Sol ou le terrain a été choisi parce qu'il est pertinent à la catastrophe. Le jeu Saifa et le Sol peuvent être téléchargés à la boutique appelée Apple Store et Google avec le mot-clé Saifa et terrain. Outre les deux jeux, la Croix-Rouge d'Indonésie a également lancé des applications de première secours et d'alerte en cas de catastrophe et Mobile Rapid Assessment. Chers fidèles amis, c'était l'édition de la couleur indonésienne, dont le même de ce jour est l'application éducative lancée par la Croix-Rouge de l'Indonésie. Merci de votre attention et fidélité. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonjour, chers amis de voir la voix d'Indonésie dans le monde entier. Avec moi, Yubi, le magazine de Pelanginada ou magazine de musique. Ce magazine qui présente la musique traditionnelle indonésienne et moderne. Pour cette édition, on va présenter un groupe de band s'appelle Samson. Ses amis, pour commencer notre soirée, on va vous présenter une chanson de Samson intitulée « Di Ujung Jalan ».
Di tengah terik matahari, aku menyanyikan kisah tentang kita. Terima kasih.
Chez amis, c'était une chanson de Samson intitulée Di Ujung Jalan. Samson, un groupe de l'Indonésie à la genre de pop rock. Ce groupe a été fondé le 14 juillet 2003 avec le nom de Equal. Cependant, afin d'avoir pu enregistrer, la chanteuse et le batteur ont décidé de le quitter. Ensuite, on a changé de devenir le nom de Samson. Le premier album avait des succès au public. Le deuxième album, Nungu, a été lancé le 25 mai 2007. Cet album a été produit aux trois continents, en Asie, en Australie et aux États-Unis, avec un mois d'enregistrement. Samson a aussi fait une collaboration avec l'orchestre de Sydney Philharmonic. Avant de commencer, écoutons-le, les chansons intitulées Lara.
Usai sudah cinta yang selama ini kita banggakan, peluhku berujung duka yang tak pernah sedikit pun aku bayangkan. Biarlah berlalu, lepaskanlah selama ini ada dan masih.
Shazami Saband de Samson se compose de Bambang Reguna Hill, chanteur, Eric Partogisiagian, guitariste, Irfan Olia, guitariste, Chandra Cristanto, batteur, Andri Aldri Data Fiadi, bassiste. Ce groupe a également fait une fois collaborer avec Erwin Gutawa, un compositeur célèbre indonésien. Samson a fait le tournage de vidéo For You au 8 août 2007, où le président Susilo Bambang Yudhoyono a apparu dans cette séquence vidéo. Cette chanson est dédiée pour les soldats indonésiens qui se sont rendus au Liban en tant que membres de la force de la paix de l'ONU. Après, Samson a sorti un album intitulé Lulu ou Fondu sous la forme de clip vidéo et MP3. Ce clip de vidéo raconte une femme qui perd son petit ami qui a eu des brûlures d'accident de moto. Ses amis, malheureusement, on n'a plus de temps. Donc, avant de terminer notre raconte de magazine de musique, écoutez deux dernières chansons intitulées Langit Runtuh et Kutemukan Cinta. Merci de votre attention et fidélité. Au revoir, à la semaine prochaine. À demain.
Cahaya yang ku cari, kau sungguh sanggup menerangi jalanku. Di mana aku melangkah, di sana kau beri arti. Tak pernah lelah menemani hidupku. Santun bahagia.
c'est toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Berjuta kisah yang takkan mungkin terhapuskan oleh rentang waktu. Begitu pun kau di hatiku, kau yang terbaik
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.